Donc je suis Joanne Guichard-Floch, je suis architecte. Je dirige une agence d'architecture qui s'appelle Johansson et qui est basée à Angers.
Et moi, c'est Damien Deville, je suis géographe dans l'enseignement et la recherche, plus particulièrement dans le courant de la géographie culturelle, qui s'intéresse aux relations qu'on entretient les uns et les autres à l'échelle des territoires. Et comme Joanne, je viens des Pays de la Loire, du département voisin, la Sarthe.
Voilà. Vous êtes venu ici à Saint-Sulpice, vous avez été invité par la commune. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet de la commune et pourquoi est-ce que vous êtes venu ici ?
Donc moi, je suis ici parce que je représente finalement l'équipe d'aménagement qui travaille sur le projet de réflexion, de transformation du centre-bourg de Saint-Sulpice-la-Forêt, mais aussi le projet d'ensemble. C'est un quartier qui s'appelle ZAC l'Orée de la Forêt. Et c'est un projet multisite qui se questionne sur, le devenir de Saint-Sulpice-la-Forêt pour les 30 prochaines années. Quoi.
Et moi, c'est parce que la mairie m'a invité pour confronter, au fond, ce qui porte en termes de politique publique et justement cette nécessité de fabriquer autrement les territoires face à la crise sociale et écologique, et notamment en recréant de la relation à tout ce qui nous entoure, entre humains d'abord, mais aussi avec le paysage, les symboles, l'environnement, le non-humain. Il faut mettre tout ça de concert à travers une flèche du temps commune. Et donc l'idée, c'est d'être croisé ce que nous, on peut faire dans la géographie culturelle, dans la recherche, et ce qui se passe ici sur le terrain. Quoi. Ouais.
Quelles questions vous vous êtes posées particulièrement là, parce que vous sortez de la salle polyvalente de Saint-Sulpice-la-Forêt, et d'une table ronde où vous avez parlé, vous étiez les invités de la table ronde. Quelles étaient les questions ou quelle était la question de cette table ronde ?
Les questions qui étaient posées étaient bien celles de la fabrique. Hein. C'est le titre du projet de démonstrateur de la ville durable, c'est la fabrique du village métropolitain. Donc en fait, les questions qui étaient posées tournaient autour à la fois de la manière d'approcher le projet de transformation de la ville en se recentrant sur le cœur de bourg, la méthodologie, les acteurs, quelles étaient les motivations, les valeurs qui guident le projet. Pour ma part, en tant qu'architecte urbaniste, en quoi ça questionne nos approches, nos pratiques usuelles. Est-ce que ça nous oblige on dit vulgairement à faire un pas de côté, mais là c'est plus que ça aujourd'hui à Saint-Sulpice. Ça nous emmène vers des... Comment est-ce qu'on va dire ? Une manière de faire un peu d'introspection en même temps que de choisir comment on va emmener vers un nouveau récit, on a parlé pas mal de ça, pour réussir à accompagner les transitions et en même temps la transformation du bourg autour du projet que portent les élus et qui du coup se manifeste là aujourd'hui à travers les universités de printemps qui formalisent un temps de retour par rapport à 2 ou 3 années de réflexion et d'incubation sur cette question de la fabrique du village métropolitain.
Et moi, de mon côté, j'ai souhaité amener une perspective. C'est déjà de rappeler que uniformité et précarité dans les territoires ont tendance à se conjuguer. C'est vrai qu'on est les héritiers en France d'un modèle de développement qui a eu tendance à penser... les territoires autour de recettes toutes faites. Pensons par exemple aux politiques économiques qui ont cherché à spécialiser chaque territoire dans une ou plusieurs filières d'excellence que ce territoire serait le seul à avoir, partant du principe que ce faisant, il allait pouvoir tirer son épingle du jeu sans faire concurrence à son voisin. C'est le cas de l'agroalimentaire par exemple en Bretagne, des sous-marins à Cherbourg, de l'automobile dans le Grand Est pendant très longtemps. Et que finalement, cette politique... de surspécialisation d'un territoire a fait des pots cassés, puisque 70 ans après, 100 ans après, pour certains territoires, on observe que c'est parce qu'ils étaient trop spécialisés hier qu'ils ont aujourd'hui des indicateurs de précarité. L'élevage breton qui peut provoquer des algues vertes sur le littoral, par exemple, toxique autant pour les humains que les non-humains. Les territoires trop spécialisés dans la mine, qui ont vu, lorsque la France, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, s'est orientée vers un mix énergétique de l'hydraulique, du nucléaire et du gaz, à fermer ses mines. Et pour ces territoires trop spécialisés, ça a été des indicateurs de précarité très forts à l'Est, Saint-Étienne, le bassin houlier du nord de la France, etc. Ça se voit aussi en termes d'aménagement du territoire. Hein, quand on pense à des recettes un petit peu toutes faites, on en oublie les singularités de chaque lieu, ce qui permet l'émancipation à l'échelle locale, tous ces territoires qui grandissent en nous au quotidien. Il y a cette belle phrase de Nkrumah que j'aime beaucoup, c'était un penseur africain, il disait que indépendantiste, voilà, ghanéen. Et il disait, on n'est pas africain parce qu'on a grandi en Afrique, mais parce que l'Afrique grandit en nous. La phrase est très belle. C'est pareil pour les territoires dans lesquels on habite. Il y a des choses qui grandissent en nous, mais on a eu tendance à les oublier dans les modèles de développement. Tant et si bien qu'on arrive aujourd'hui en 2025 avec un élément qui caractérise les sociétés contemporaines, c'est que bah, on connaît plus très bien les territoires dans lesquels on habite. Et qu'il y a un immense enjeu à mieux les comprendre, mieux les connaître, pour mieux les aimer et mieux les protéger, mieux les projeter dans l'avenir. Quoi, voilà. Et comment on fait ça ? Ben, tout simplement en contournant l'uniformité. Et ce qui permet de contourner l'uniformité, c'est la diversité, c'est son contraire. Qu'est-ce qui crée de la diversité dans les territoires ? Ben, c'est de nouvelles formes relationnelles. Voilà. C'est en recultivant le lien à l'autre, entre humains bien sûr, et avec tout ce qui compose le territoire ensuite. Et ça, ça ne s'invente pas, comme le dit très bien Johan, ça demande de travailler l'espace. L'espace est performatif. Il guide nos relations sociales et vice-versa. Nos imaginaires guident l'aménagement de l'espace. C'est bien ce dialogue entre imaginaire et immatérialité qu'il faut retravailler dans chaque territoire. Et c'est vrai que le projet qui est porté ici en est pour moi un magnifique exemple, presque un cas d'école, quoi. Ouais.
Et je me demande comment est-ce que vous vous rencontrez par rapport à ces questions, vous deux.
C'est en quoi nos approches... Dialogue autour des mêmes valeurs et des mêmes pressentiments, quoi. Moi, je suis dans un métier assez opérationnel et je revendique de pratiquer l'urbanisme et l'architecture vraiment par le faire, quoi. D'accord. Donc, ma démarche, elle n'est pas portée par une vision que j'aurais construite en dehors de ce que je peux défendre quand je suis ici, quoi. D'accord. C'est-à-dire que je pratique l'urbanisme en étant immergée ici, en regardant comment les gens vivent, en échangeant avec les acteurs du projet qui sont déjà là, les élus qui sont très inspirés, très inspirants, qui nous guident vraiment vers une vision. On a la chance d'avoir des élus qui ont un dessin, quoi, et qui ont beaucoup d'ambition, qui sont complètement décomplexés par rapport à tout ce qu'ils peuvent se permettre d'inventer, alors qu'on est dans un village de 1500 habitants. Donc ces gens très inspirants, du coup, nous obligent à nous mettre à leur niveau quand même et à apporter du coup une méthodologie de projet, c'est-à-dire une capacité à ensuite adapter l'espace à leur vision, qui moi m'impose de me mettre en retrait en quelque sorte, mais de me mettre surtout au service de cette vision et au service de ce que je comprends, de ce que je vois ici, quoi. Et donc, ici, il y a du patrimoine, il y a de l'histoire, il y a envie d'être riche avec ça. Il y a plein d'élus dans plein de territoires qui, alors eux, sont décomplexés par rapport à l'idée que le passé est inspirant, quoi, et qui sont toujours dans cette espèce de mythe de la modernité où il va falloir faire nouveau pour faire bien, quoi, qu'il va falloir réinventer les choses, etc. Ici, on n'est pas dans cette vision. On est plutôt nourri par ce qui existe, ce qui est fort, ce qui fait l'identité. Et donc, il suffit de suivre, quoi. Et donc, après, moi, mon travail, c'est de modeler l'espace pour que l'on serve, entre guillemets, qu'on crée la bonne qualité d'espace qui va accueillir ou qui va permettre de mieux vivre pour les habitants qui ont déjà des pratiques dans ce lieu. On n'est pas en train d'inventer, on est en train d'adapter, on est en train de transformer. On est en train de trouver les clés pour imaginer un processus d'accompagnement et de transformation. C'est-à-dire que l'urbanisme, ce n'est pas un plan masse. C'est la compréhension de quel levier permet d'activer quelle action, quoi. Et donc, si je mobilise tel foncier, bah, ça, c'est de la technique, hein, mais je vais pouvoir activer telle partie de projet qui permettra d'enclencher un changement. Et donc, le changement que je fais là me permettra d'en faire un autre. Et au fur et à mesure, je vais transformer l'espace. Mais du coup, historiquement, ces dernières années et pendant, je pense, tout le XXe siècle, on a beaucoup plaqué des visions sur des territoires. Et on a bien conscience aujourd'hui, quand on est dans toute une phase de renouvellement urbain, que l'approche du renouvellement urbain, elle doit aussi se porter dans les territoires ruraux comme celui-ci. La construction de ce cœur de bourg, elle est bien empreinte de comment on voyait l'aménagement dans les années 80. Et donc, elle est figée aujourd'hui un peu dans un modèle d'aménagement qui est très ancien. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va le considérer comme tout patrimoine, quoi. C'est-à-dire, avec ça, je vais faire la ville qui sera adaptée pour les plus de degrés et pour des attentes sociales qui sont différentes de celles des ménages qui s'installaient ici dans les années 80. Et donc, moi, mon travail, après, ça va être de projeter comment on peut dessiner des nouveaux logements, quel sera l'aménagement public qui permettra de faire perdurer cette prairie dans laquelle les enfants jouent déjà comme des fous en liberté, en même temps que la voiture va retrouver sa place, en même temps que l'équipement public va trouver une deuxième vie pour accueillir d'autres services, etc. etc. Donc on est un peu des passeurs, quoi.
Oui, pour rejoindre ce que disait Joanne, à mon avis, il y a trois clés de lecture qui permettent de regarder un petit peu autrement les territoires et les projeter dans l'avenir. C'est des clés de lecture qui sont propres à la géographie culturelle, mais à partir desquelles on peut réfléchir pas mal de questions, à mon avis. Je sais que je parle un peu pour ma paroisse en disant ça, mais... la première, c'est qu'effectivement, un territoire est toujours le produit de son historicité et que pour comprendre les enjeux qu'il traverse aujourd'hui, il faut remonter un petit peu les pages de l'histoire, y compris de l'histoire écologique des milieux. Comme j'exprimais tout à l'heure, on a perdu un peu la connaissance de nos territoires. Les volcans en Auvergne, le bocage sur les terres de l'Ouest, par exemple, les marais à Saint-Omer dans le nord de la France, et qu'il y a un immense enjeu à remettre tout ça en archive, à remettre tout ça en connaissance partagée. Tout simplement parce qu'on protège que ce qu'on aime, on aime que ce qu'on connaît et on connaît que ce qui nous a été préalablement enseigné. Si j'en viens à un projet comme ce qui se passe ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on puisse dans des héritages partagés, dans des fiertés partagées, en l'occurrence le vernaculaire, pour construire un nouveau projet de développement. Et en même temps, parce qu'en disant qu'un territoire est le produit de son historicité, il y a le risque de mettre un territoire sous cloche, en fait. Bah, et de le fixer comme ça dans des sortes d'un déterminisme hérité du passé, qui a tendance aussi à briser la relation, à ne pas être très inclusif. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on défixe en fait ces héritages pour les placer dans une cadre pleinement moderne face aux enjeux contemporains qui est la transition écologique, de nouveaux liens sociaux dans la commune, retisser la relation. À mon avis, c'est ça la clé, quoi. Et c'est très bien porté ici. En fait, quand je parle de modernité, c'est aussi tous les éléments irrités justement de notre histoire de la modernité qu'on peut placer en universel. Moi, en tant que scientifique, j'estime que les connaissances scientifiques sont un universel. Par exemple, ce qui permet de mieux comprendre le vivant et de mieux s'orienter vers des techniques d'agroécologie, par exemple, dans l'agriculture. Ce qui permet de mieux comprendre le bâti et qui, en puisant dans les ressources locales, permet aussi de construire des logements confortables qui correspondent aux attentes du 21e siècle, en fait. C'est cette rencontre dans laquelle il faut puiser. Il y a Augustin Berck, un grand géographe culturel, spécialiste du Japon, qui dit ça, qui dit qu'il faut que les maisons... montent de la terre autant qu'elles descendent du ciel. Voilà. C'est très métaphorique dit comme ça, mais ça veut dire qu'elles doivent puiser dans des ressources locales tout en répondant à de nouveaux universels, en fait, de nouveaux enseignements un petit peu partagés, quoi. C'est cette rencontre qui est intéressante. Faut bien sûr pas mettre un territoire sous cloche par rapport à son passé. Faut que chaque territoire puisse dialoguer avec le monde. Faut que chaque territoire puisse rencontrer le monde, quoi. C'est cette passerelle qu'il faut construire. Ouais. Sinon, effectivement, c'est pas très intéressant. Et puis derrière, voilà, c'est la deuxième hypothèse un peu de la géographie culturelle. C'est pareil, c'est une phrase qui vient d'Augustin Berck, je cite beaucoup, c'est l'un de mes maîtres en géographie. Il dit que l'être se crée en créant son milieu. L'être se crée en créant son milieu. C'est cette idée très belle de se dire, en habitant un territoire, on le modifie, et que dans cet exercice même de modification, on se change en retour. On change nos manières d'être, nos manières de penser et nos manières de se projeter dans l'avenir. Par extension, la question citoyenne qu'il y a derrière, c'est de se dire comment on aménage le territoire pour changer le cœur de l'humain et vice-versa, quoi. Voilà. Et quand dans un projet urbain, on accorde beaucoup d'espace à la rencontre, beaucoup d'espace à la biodiversité, beaucoup d'espace finalement à la connaissance d'un territoire, ne serait-ce que dans les matériaux qui sont utilisés pour construire les logements, eh ben, on participe pleinement justement à ces territoires qui changent les choses en même temps qu'ils changent nos projections, quoi. Tu vois, ouais. Ça qui est intéressant, c'est vrai que je l'avais pas réalisé avant de venir ici. J'avais en entendu parler, mais c'est toujours différent qu'en ville, territoire, dans le sensible. Il y a ici, à mon avis, un cas d'école de ce qui pourrait caractériser finalement une géographie culturelle qui transforme un petit peu les territoires par le concret.
Qu'est-ce que vous allez faire demain ?
Donc moi, je dois présenter aux habitants le projet urbain. Donc, on a un petit emplacement avec la présentation des plans, des vues, des axonométries, déjà quelques images qui permettent de se projeter. Et donc, on va accueillir les habitants au fur et à mesure de l'après-midi pour répondre à leurs questions. Et puis aussi, commencer à partager les principes de l'aménagement ou les principes de transformation qui vont s'opérer dans le centre-bourg.
Et ben moi, demain à 10h, je fais un atelier au fond sur Paris, la géographie culturelle. Ce sera participatif, on fera un exercice ensemble qu'on appelle une rivière du doute. C'est l'idée de questionner les territoires autour des perceptions qu'ont chacun. Et puis moi, j'amènerai pas, non pas une réponse, mais en tout cas les clés de lecture que propose un peu la géographie autour du lien à la nature, autour de ce qui fait culture, autour de comment on peut penser la diversité des territoires, autant localement que dans un projet plus global, dans un projet national. La décentralisation et du nombre, par exemple. Voilà. Et je montrerai aussi quelques cartes. Voilà, c'est une demande de la collectivité ici, de la commune. On travaille en ce moment sur des cartes qui réinvitent enfin dans la représentation cartographique ce qui, à mon avis, n'a jamais été tellement fait dans l'histoire de la cartographie que sont les espaces vécus. Voilà. Les relations qu'ont tissé les uns avec les autres dans nos territoires. Une carte est surtout caractérisée par du vide aujourd'hui. Notre carte GPS, ça nous montre le trajet le plus performant d'un point A à un point B, ça met tout le reste en invisibilité. Or, c'est tout ce qu'il faut dévoiler pour mieux comprendre nos territoires et mieux en prendre soin. Toute cette diversité qui a été voilée dans l'entreprise de la modernité, on réfléchit à des cartes qui repeuplent. Voilà. Et donc, c'est l'idée d'en projeter quelques-unes et que ça génère du débat.
Est-ce que sur la lecture de cartes, j'imagine que toi aussi, Johan, tu regardes des cartes. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose quelque chose que tu as remarqué, qui t'a sauté aux yeux en regardant la carte de Saint-Sulpice-la-Forêt ?
Saint-Sulpice-la-Forêt, nous on est arrivés, il y avait déjà un certain nombre de plans masse. Nous on appelle ça des plans masse, c'est pas exactement des cartes, mais c'est peut-être parce qu'on a l'impression qu'on est déjà dans le projet, donc on dessine finalement ce vers quoi on va aller en s'inscrivant dans l'existant. Bon, voilà. Donc, quand on a commencé, nous, à prendre en main le projet, on est reparti en faisant une petite analyse historique de comment était le paysage dans les années 60. Et en fait, les champs, aujourd'hui, qui sont des grands carrés cultivés avec de la monoculture de je ne sais quoi par parcelle, etc., sur des hectares, en fait, ils étaient ponctués, et c'est des photos aériennes en fait, qu'on a retrouvées sur Géoportail, ponctués d'arbres. C'est-à-dire que tous les 5 mètres, il y avait un arbre fruitier dans tous les champs qui aujourd'hui sont complètement vides, complètement nettoyés de présence végétale pour avoir la rentabilité par la parcelle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore des bribes de haies bocagères, il y a des boisements qui sont définis avec des formes cadastrales ultra précises, et puis la ville, d'accord, la construction. Donc après, ce qui est intéressant, c'est de voir, et en fait on s'est complètement décodé toutes les périodes, le parcellaire, quoi. Et le parcellaire, il raconte les usages, il raconte l'histoire, il raconte la modernité, tu vois, c'est vraiment un truc étonnant, hein. Mais ce qui nous a le plus inspiré, c'est de comprendre que quand aujourd'hui on se pose la question de replanter dans les villes, de trouver l'équilibre entre ce qui serait de la nature et de l'urbanisation. Cet enjeu, on disait, du ZAN, c'est-à-dire les équilibres, en fait, les questions de renaturation aussi d'espace. On s'aperçoit que déjà dans les champs, le paysage qui était dans les années 60 n'est pas du tout celui qu'on a aujourd'hui. On le sait pour, on va dire, le remembrement. Hein, mais on n'imaginait pas qu'en fait, on avait cette complicité entre les arbres, dans l'idée aujourd'hui d'une agroforesterie, quoi, des arbres et de la culture. Et donc, on est venu utiliser un peu, pas seulement comme un motif, hein, c'est-à-dire j'ai des arbres tous les 5 mètres et ça me crée un quadrillage, hein, mais plutôt comme une complicité qu'on devait retrouver. Et c'est cette image-là que j'ai de carte, mais serait plutôt une vue aérienne, quoi. Et du coup, ça inspire finalement le projet de composition urbaine des quartiers pour lesquels on va sur des fonciers aujourd'hui qui sont agricoles, parce qu'il y a une partie du projet qui concerne ce type de territoire. Et donc l'inspiration, elle vient de retrouver cette complicité entre une plantation en préalable, des trames paysagères, des trames d'arbres et la possibilité de trouver à l'équilibre des constructions et de l'habitat. Et le projet du coup de logement, il va être inspiré de cette complicité-là.
Que Damien, tu pourrais nous parler d'un exemple d'adaptation par rapport à cette précarité dont tu parlais, qui montre une résilience par rapport à cette précarité qui a été amenée justement par une spécialisation à un moment de l'histoire, et puis ce dont tu parlais tout à l'heure.
Ouais, ça va.
Oui, peut-être pour répondre à ta question, je peux t'emmener sur mon terrain qui fut mon terrain de thèse de doctorat en Cévennes, et notamment la capitale des Cévennes, qui est la ville d'Alès. Alès a exactement la même histoire que Saint-Étienne, surspécialisée dans le charbon, dans les mines charbonnières, qui voit ses mines fermées à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, les gens restent sur le carreau. Ils restent d'autant plus sur le carreau que Alès est victime de la concurrence métropolitaine, qui a tendance aujourd'hui à concentrer les opportunités. Il faut bien avoir en tête que ce qui caractérise une métropole, ce n'est pas simplement une ville qui s'agrandit sur elle-même. C'est la capacité qu'a cette ville de reconcentrer toutes les opportunités, de restructurer toutes les filières d'une région à partir de son propre centre, avec pour risque de mettre en vassalité les autres types de territoires, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe en Languedoc-Roussillon, en Occitanie maintenant. Montpellier, Toulouse explosent. Et du coup, les petites villes de Ganges, Lodève, Perpignan, Alès tirent un petit peu la langue. Voilà. Et du coup, ce qu'a choisi la ville d'Alès pour essayer de rebondir, c'est de mettre en place des politiques d'attractivité. On peut les comprendre, hein. Voilà, c'est de bon droit. Mais la limite de ça, c'est qu'ils mettent des millions sur la table pour attirer des gens qui ne sont pas là, qui potentiellement ne viendront jamais. Et alors que la ville est déjà ruinée de cette trajectoire de désindustrialisation, bah souvent, il ne reste plus grand-chose pour les gens qui sont déjà là. Et du coup, ben, certaines de ces personnes se débrouillent un peu par elles-mêmes pour répondre à leurs besoins quotidiens. Et l'une de ces stratégies d'adaptation, c'est le retour à la terre, le retour à des jardins familiaux. Il y en a plein à Alès qui se sont redéveloppés par la crise actuelle. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est quelque chose qu'on a très bien observé historiquement, c'est que l'agriculture en ville se développe davantage en période de crise et au contraire se rétracte en période de faste. Voilà. Seconde guerre mondiale, les jardins se développaient énormément dans les villes pour faire face à la disette, hein, alimentaire sur les marchés. 30 glorieuses, la plupart de ces jardins sont coulés sous le béton, quoi, pour construire des nouveaux projets de développement urbain. Et tout l'objet de ma thèse de doctorat, ça a été aujourd'hui à Alès, en 2025, tu vois, de toquer à la porte de ces jardins pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ces jardins. Et l'une des conclusions, c'est que ces jardins, déjà, ils peuvent être très grands, hein. Ils peuvent atteindre jusqu'à 800 mètres carrés par personne. Et effectivement, sont une véritable canne, une épaule pour faire face à la précarité, un petit peu financière, même si ces jardins ne permettent pas à ces jardiniers de sortir de la précarité financière en tant que telle. Mais par contre, ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils participent à une trajectoire d'émancipation plus globale. Ces jardins sont synonymes de bien-être pour les jardiniers par rapport au logement HLM qu'ils peuvent avoir par ailleurs, de rencontres sociales, de réappropriation du territoire, de réappropriation de perspectives dans la ville, perspectives auxquelles ils ne sont pas associés dans les politiques de développement qui concernent, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, plutôt les classes créatives, donc les gens diplômés, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de cette expérience de jardin, on peut, à la manière d'un accordéon qui s'étire, j'aime bien cette métaphore, monter un peu en théorie pour voir comment, à partir des jardins, on peut repenser la ville, on peut repenser les territoires. Et à mon avis, il y a trois enseignements clés un peu de ces jardins. Un, c'est que ces jardiniers, en fait, ils sont très créatifs et ils participent finalement à un renouvellement urbain, y compris pour la biodiversité, puisque ces jardins sont des catalyseurs de biodiversité incroyables. Tout ça pour dire que les personnes qui sont déjà là ont tellement à apporter au territoire, si on sait les regarder autrement et si on leur sait leur donner un peu de pouvoir d'agir. En l'occurrence, là, si je prends les jardins, c'est du foncier, mais ce pouvoir d'agir peut prendre d'autres formes. Ça, c'est un beau message en termes de politique de développement, de miser, bien sûr, sur des populations qui arrivent. Il faut que chaque territoire soit hospitalier, mais aussi sur ceux et celles qui sont déjà là, quoi. Voilà. On a autant besoin du mouvement que de la fixité pour penser la résilience des territoires. Deuxième enseignement, c'est que ce qui fait l'émancipation dans ces jardins, c'est la relation à l'autre, la relation à la terre, aux Cévennes, la relation aux tomates qu'on plante, la relation aux autres jardiniers. Et du coup, ces jardins sont une invitation à faire de la relation une œuvre qui peut prendre des formes extrêmement plurielles dans les territoires. Ça peut être des tiers-lieux, ça peut être des coopératives d'entreprises qui créent des liens réciproques plutôt que la grosse industrie qui va participer à uniformiser l'économie d'un territoire, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est aussi, et c'est ce qui est pratiqué ici par Johan notamment, une nouvelle manière d'aménager le territoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que les années 60 et 80 ont été, je crois, je suis peut-être un peu sévère en disant ça, mais c'est ce que je peux proposer en tout cas à la discussion, ont été, je crois, dans les politiques d'aménagement, une entreprise incroyable de destruction des liens. Quand je vois des départementales qui coupent des villages dans ce qui était avant le cœur de village, où passent des poids lourds H24 pour rejoindre les ports de Saint-Nazaire, de Brest ou de Lorient, c'est le cas en Sarthe, il y a plein de villages comme ça, on voit à quel point on a tué le lien sur l'outette de la performance économique, en fait, dans les villages. Voilà. Donc c'est tout ça, penser la relation comme une œuvre, et pour ça, on est limité que par les barrières qu'il y a souvent au sein de nos propres imaginaires. Et puis enfin, la troisième, ce qui est intéressant dans ces jardins, c'est qu'ils permettent de reconnecter la ville aux Cévennes là où la ville s'est détournée un petit peu des Cévennes au fil du temps, à cause de plein de choses, à cause de, aussi en termes de politique de développement, la ville ne mise pas sur les Cévennes, elle mise sur ce qui fait le succès des grandes métropoles, en singeant un peu ce qui fait le Montpellier, ce qui fait Toulouse, en oubliant un peu les montagnes qui entourent la ville d'Alès, quoi. Voilà. Et donc, les jardins montrent que c'est aussi en se réenracinant dans les singularités locales que la ville pourra avoir un certain rebond social et économique. Et tu vois, cette recette, miser sur les gens qui sont déjà là, faire de la relation une œuvre, redévoiler les singularités de chaque territoire et placer ces singularités au cœur des modèles de développement, c'est des repères qui peuvent finalement guider bien des territoires et pas que la ville d'Alès. Ça peut être comme une méthode qui peut inspirer les acteurs territoriaux, qu'ils soient publics ou privés, d'une région à l'autre, quoi.
J'ai l'impression que ces questions, c'est quand même aussi beaucoup des décisions politiques et penser la place des habitants et habitantes au sein d'un territoire. Et souvent, il y a des idées de concertation, mais il y a plusieurs mots pour dire qu'on va donner de la place plus ou moins aux habitants pour décider de où ils vont vivre, comment ils vont pouvoir se projeter, etc. Mais comment est-ce que ça se passe concrètement ? Comment ça s'est passé ? Comment ça se passe dans ton travail concrètement, cette idée de donner la place à la voix des habitants et habitantes ? Et comment ça s'est fait à Saint-Sulpice ?
Il y a quand même un grand cliché qui est celui du maire des communes qui se sent investi d'une grande mission et qui pense qu'il doit, ce qu'on appelle le maire bâtisseur, marquer de son empreinte le territoire dans lequel il est élu. Ça existe encore pas mal, ça. Il y a beaucoup d'élus, même s'ils ne sont pas maires, qui se sentent investis, quoi. Alors, le problème, c'est investi pourquoi ? Avec quelle vision ? Parce que ce qui est dommage, c'est qu'on a souvent des gens pleinement investis, mais qui n'ont pas de vision, quoi. D'accord ? La ville, elle est complexe, le territoire, il est complexe à comprendre. Et donc, il faut, je pense... aller au-delà de ce que le réglementaire oblige. Parce qu'en fait, il s'avère que dans l'aménagement, il y a des démarches qui sont obligatoires. Et on appelle ça de la concertation publique. La concertation publique, elle est ultra-descendante. Hein, c'est-à-dire, j'ai un projet, je vais faire quelques réunions publiques, je vais faire une permanence ou deux, je vais faire une petite exposition, je vais expliquer le projet. Et il y aura un registre, comme une sorte de livre d'or, dans lequel vous allez pouvoir mettre vos commentaires. C'est comme ça aussi qu'un PLU, un plan local de l'urbanisme, est concerté, d'accord ? Alors là, on s'aperçoit que dans cette vision très descendante de « j'ai une idée et je vous la soumets », en fait, on n'a pas du tout de co-conception, on n'a pas de vision partagée. On a juste une vérification, un cautionnement de « ça vous intéresse ou ça vous a, ou est-ce que ça vous dérange ?» quoi, mais pas plus que ça. Donc aujourd'hui, les démarches qu'on mène quand on est urbaniste, on est nombreux à faire ça, c'est de commencer par comprendre le territoire ensemble, parce qu'on n'est pas sachant. On a des méthodes, on a des capacités à projeter, on a des outils, etc.
Ça passe pas que par la lecture de cartes, par exemple ? Je veux dire, il y a des balades, il y a aussi...
Oui, il y a les balades, il y a les dialogues et les échanges, et puis il y a aussi le quotidien des gens qui racontent en fait là où il y a des problèmes, là où c'est la galère, quoi. Il n'y a rien de plus intéressant que d'écouter une personne qui a des difficultés de mobilité pour comprendre si en fait le parcours il est faisable ou pas, quoi.
Comment vous allez rencontrer ces personnes si...
Alors il y a toute la phase qui s'appelle diagnostic, c'est-à-dire comprendre le territoire, s'immerger dans un territoire pour commencer à voir des éléments de compréhension. Modestement, il faut y passer du temps, quoi. On n'a pas des missions qui nous permettent de vivre sur place, alors on vient soit en flash, en résidence, et du coup on arrive à vivre 24 heures, 48 heures, 72 heures sur place, et du coup on s'imprègne un peu des choses en fixant des rendez-vous avec des acteurs, des élus, des associations, mais aussi en traînant, quoi. Hein. Je veux dire, faire la sortie des écoles, c'est hyper intéressant. Ici à Saint-Sulpice, il y a un des moments clés, c'est celui qu'on est en train de vivre ce soir, c'est le moment du marché. Sauf que c'est le vendredi soir, quand t'es pro, en fait, en général, le vendredi, tu rentres chez toi, quoi. T'as fini ton travail à 18h. Donc il faut rester, en fait. Il faut passer du temps le week-end, etc. À Saint-Sulpice, la première fois que je suis arrivée là, c'était justement pour travailler sous forme d'un workshop. J'ai proposé 3 jours où on est venu y immerger, s'installer dans la mairie. On nous a libéré un espace et on a dit « allez-y, quoi ». Donc nous, on s'est installés et puis voilà. On a discuté, on a traîné, on a pu sortir toutes les 5 minutes quand il y avait un truc qu'on n'avait pas compris. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prendre la mesure et à nous intégrer dans, ce, dans la vie de ce village. Trois jours de travail intensif sur ce site nous a permis de bosser 3 semaines chez nous à essayer de redigérer toute cette matière, d'accord ? Et à sortir les premières cartographies. C'est-à-dire que ce que l'on bricolait en perception sensible directe nous amenait avec nos méthodes et nos capacités de projection à tester des choses avec les élus qu'on est ensuite venu conforter, tester, etc. Et puis on a monté en définition, en qualité, en argument, le récit qu'on avait commencé à élaborer avec eux, quoi. Donc en fait, dans notre travail, moi souvent je propose justement de venir comme ça sur des temps très flash mais très intenses pour ramener de la matière ensuite et travailler à mon agence. La concertation, on peut la faire autrement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être descendant, on peut passer du temps à discuter avec les gens en les invitant à se questionner sur des problématiques spécifiques. Ce qui est intéressant, c'est de ensuite les reformuler avec eux. C'est de se questionner ensemble. C'est pas juste d'informer les gens qu'on est sachant. Parce qu'en fait, nos savoir-faire sont pas, ne peuvent pas, comment dire, se détacher de la compréhension de ce qui se passe, quoi. D'accord ? Et la mise en récit, elle est basée sur la projection de comment on peut adapter ce qui existe ou aller vers une transformation. Mais on n'est pas sur une page blanche, en fait. Donc l'idée, quand même, tout simplement, c'est de comprendre où sont les arbres, faire des relevés topo, comprendre la topographie et dialoguer avec les habitants. Donc la concertation, elle se fait sous forme d'atelier, dans les phases diagnostiques et dans les phases de projection. Et moi, je m'empêche d'aller trop vite à une représentation spatiale parce qu'il me semble intéressant qu'il faut d'abord parler du projet, du pourquoi et des éléments stratégiques avant d'être dans la représentation et dans la formulation spatiale. Donc on s'empêche de dessiner trop tôt parce que sinon on apporte des réponses trop vite. Et donc la concertation, elle peut permettre aussi des fois de faire de la co-conception, de tester des solutions et d'arriver avec des propositions de maquettes à manipuler les assemblages d'îlots, à se questionner sur la place de la voiture, à emmener aussi sur la compréhension des priorités, ce qui fait la richesse du site. Et donc très vite, quand on représente les arbres, on représente la pente, qu'on représente les haies, eh bien tout le monde, même les élus, j'allais dire, les plus éloignés des sujets écologiques, sont convaincus qu'il va falloir préserver ce qui est le patrimoine d'aujourd'hui. Donc en fait, on n'a pas de mal à emmener des récits avec des gens qui ont compris quels étaient les problèmes, quels étaient les sujets, quelles étaient les richesses. Et ensuite, on emmène nous, après, dans des résolutions pour dire, oui, la place, elle fait tel dimensionnement, il y a 20 emplacements de marché à trouver, et moi, je vais dimensionner ça. Mais l'idée que le marché va être là, elle y existe déjà, quoi.
Merci, c'est l'heure de la fanfare, je crois. Donc on va aller voir ce qui se passe là-bas. Et est-ce que vous avez quand même quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte ?
Ce qui se passe ici, c'est très exceptionnel. On est d'accord qu'il y a beaucoup d'endroits où les méthodologies sont encore hyper traditionnelles. Et les postures des gens, très figées. Et donc le dialogue avec les élus, il est exceptionnel ici, quoi.
Oui, qu'est-ce que je fais, hein ? Non, effectivement, comme disait Johan, moi je trouve que la plupart des territoires sont un peu empêtrés dans ce que j'appelle le paradigme de l'attractivité, y compris les territoires ruraux. Changer de perspective, changer de lunettes dans la manière de regarder les territoires et s'orienter plutôt vers des politiques du bien-être, ça paraît bête comme tout dit comme ça, mais je peux dire que c'est un sacré glissement quand même dans ce qui est actuellement pratiqué dans les territoires. Et effectivement, ici c'est un bel exemple de ce glissement. Ouais.
Merci beaucoup.
Sur la fin, tu entends le bruit un peu, ouais.
Ah bah là, on l'entend, c'est sûr.
Vous êtes bien à Saint-Sulpice-la-Forêt pour cette université du printemps. Le printemps dans toute sa splendeur. De la pluie aujourd'hui, mais météo au beau fixe dans nos cœurs. Ici à Saint-Sulpice, venez nous rejoindre autour du plateau radio, autour des ateliers qui sont organisés un petit peu partout. Et on va essayer le miracle des ondes. Voyons si le miracle des ondes opère. Flo,
allô,
Flo.
Allô.
Allô, allô.
Allô.
Allô, Flo.
Tu m'entends, Julia?
Ouais, c'est trop bien. Je ne te vois pas, mais je t'entends. On t'entend très bien.
Et oui, parce que je suis à peu près à, oh, je sais pas, 15 mètres de toi, mais tu ne me vois pas. Et on vient d'entendre Damien Deville et Joanne Guichard, mais en fait, Joanne Guichard était juste à côté de nous. Donc on a traversé la pluie avec le micro et le long câble, et on est de l'autre côté de la place. Pour cette matinée, c'est pas mal de tirer une carte et de faire une lecture de l'avenir. Est-ce que Joanne, tu peux nous faire une lecture de carte?
Alors j'ai devant moi une carte qui est celle du projet urbain qui se déploie à travers différentes interventions dans la ville. Alors comment elle est montée cette carte? On a une photo aérienne qui montre le territoire urbanisé, mais aussi autour la campagne avec les champs. On reconnaît les trains bocagères, les boisements, la forêt au sud avec le bois du Fayel. Et donc là, on a une image vue du ciel, finalement, pour les oiseaux, qui nous illustre comment est réellement la ville vue du ciel aujourd'hui, quoi.
Donc c'est pas une lecture de l'avenir, là, c'est une lecture du présent.
Sauf qu'on est venu incruster une vision de ce que serait le projet si on était, mettons, en 2035. Et donc, dans l'avenir, tous les périmètres là, qui sont cernés en rouge nous indiquent ce qui va changer. Ce qui va changer dans le cadre du projet, ce que nous, on planifie de changer. Par contre, évidemment, la ville va continuer à évoluer autour. Et ça, on n'a pas représenté. Et donc, notre carte ici, eh bien, elle représente sous forme de dessin et d'illustration une projection de la transformation des espaces publics, mais aussi de l'apparition de nouvelles constructions. Alors, les nouvelles constructions, on reconnaît des logements, des petits collectifs. On voit des chemins aussi, on voit comment on va traverser la ville et finalement connecter les différents quartiers qui existent et ceux qui se créeront dans le futur le long de cette armature d'espace public qui permettra à tout le monde, avec son vélo ou à pied, de rejoindre les nouveaux commerces qui vont venir s'installer dans le centre-bourg, sur la place où nous sommes.
J'ai l'impression de voir une trame bleue. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Effectivement, dans l'aménagement, il faut pouvoir gérer la pluie, hein, comme aujourd'hui. La pluie, où est-ce qu'elle va ? On a beaucoup imperméabilisé les sols. Et donc, dans le projet, on va retrouver des secteurs où on va pouvoir infiltrer l'eau. Donc, il y a le traitement du sol avec sa matière, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans de l'herbe ? Est-ce que les revêtements sont poreux ? Est-ce qu'on guide l'eau avec des noues, des cheux, des fossés ? Est-ce qu'on a des bassins qui viennent récupérer les eaux pluviales ? Tout ce cheminement de l'eau, il suit aussi la topographie. On est dans des logiques de bassins versants. Et donc, aujourd'hui, le bassin versant, logiquement, il y en a plus ou moins deux hein, qui dépendent en fait de la topographie. Dans quel sens coule l'eau ? Et donc la logique technique, elle n'est pas apparente partout parce que en fait, il y a des tuyaux sous les routes. Donc il y a une partie de l'eau qui est canalisée. C'est comme ça qu'on fait historiquement dans la ville. Et puis, on voit aussi que par endroits, elle réapparaît à la surface. Et là où on la reconnaît le plus, c'est le ruisseau a retrouvé son lit naturel. Il a été j'y arriverai plus.
Allez, on s'échauffe.
On a retrouvé son parcours et avant il a été canalisé entre guillemets pour qu'il ait un fil d'eau plus droit. Il était paysager et en fait dans la pente il a retrouvé son lit naturel pour pouvoir aussi grossir, sortir de son lit et pouvoir inonder correctement entre guillemets sans avoir à déborder sur les routes ou sur les zones urbanisées. Et donc l'eau, elle a différentes formes dans une carte.
Merci pour cette lecture de carte.
Je me suis imaginé plein de choses
à tout
moi,
à l'heure.
Depuis mon petit plateau radio.